Bon, alors, donc ce tableau, j'ai essayé de vous faire comprendre quelles étaient les données de base sur lesquelles on fonctionne et qu'est-ce que c'était les conséquences de ça. Il y a des données génétiques et il y a des données environnementales. Il y a quand même des données génétiques avec lesquelles il va falloir qu'on fasse. Par exemple, les pulsions. Les pulsions en nous, qui sont principalement le sexe et l'agressivité. Et aussi Eros et Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort. Les pulsions, c'est quoi? C'est une espèce de moteur intérieur puissant, mais qui peut en même temps nous donner l'impression d'être en train de chevaucher un animal fou. Donc il s'agit de trouver la juste distance avec ces pulsions. C'est à la fois le moteur et c'est à la fois, il faut apprendre à gérer ce moteur. L'attachement. Pendant un certain temps, les Freudiens pensaient que l'attachement de l'enfant à sa mère était lié à la question des besoins et de la libido. Et en fait, ça a été prouvé depuis qu'il y a une pulsion d'attachement qui est une pulsion de base. C'est-à-dire que, par exemple, le petit s'accroche à la mère, quelle que soit l'espèce, par exemple. Et chez l'être humain, il y a le grasping réflexe, un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, véritablement, il y a quelque chose au niveau de l'attachement qui est une de nos données de base. D'autant plus qu'on se constitue en attachement sur l'autre. Mais qui va donner, chez nous, une question délicate à régler, dont on va revoir ensemble les détails, qui est l'aspiration à la fusion et le risque qu'il y a dans la fusion. Parce que si je suis fusionné à l'autre, je me perds, et en fait je deviens fou, quoi, d'une certaine manière. Donc à la fois, j'ai une aspiration à la fusion qui est dans des moments tellement merveilleux où on peut enfin se perdre l'un dans l'autre, et puis à la fois, la nécessité de la défusion pour être à la bonne distance et pour ne pas devenir fou. Donc, les pulsions sont en nous d'emblée, la pulsion d'attachement est en nous d'emblée. D'emblée en nous, il y a un système de polarité aussi, c'est-à-dire, on est bâti avec des polarités contradictoires. Le système sympathique et le système parasympathique. L'inspiration, l'expiration. L'ingestion, l'excrétion. La nuit, le jour. On pourrait dire que tout dans notre système physique de base est orienté par une polarité avec du plus et du moins. Ce qui va en même temps, du coup, donner une contradiction. Parce que je suis, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis du côté parasympathique ou du côté sympathique, par exemple? Tantôt j'ai besoin d'être calme, tantôt j'ai besoin d'être stimulé. Et il y a comme une espèce d'interrogation sur qui suis-je, puisque je suis sans arrêt dans des polarités contradictoires. Et ces polarités contradictoires sont constitutives de notre système, c'est-à-dire qu'on est bâti avec du noir et du blanc qui fonctionnent en alternance. Et en plus, elles se renforcent par le fait qu'il y a aussi alors là des données environnementales, qui est que pour choisir ma personnalité, il va falloir que je trie entre des pôles opposés. Est-ce que je vais être plutôt agressif ou plutôt diplomate? Est-ce que je vais être plutôt extraverti ou plutôt introverti? Etc, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le système des subpersonnalités. Comme vous le savez, en ayant lu le dialogue intérieur, il y a des subpersonnalités dominantes et il y a des subpersonnalités reniées. En fait, pour me structurer, il va falloir que je refuse un certain nombre de choses et que je privilégie un certain nombre d'autres. Mais du coup, ça va créer une polarité interne entre une majorité au pouvoir et une minorité qui veut à tout prix avoir sa place. Autrement dit, constitutionnellement, il y a quelque chose là qui est une espèce de conflit entre des tendances, mais en même temps, c'est de là que naît l'énergie. Et enfin, quatrième point, qui sont les bases quoi, sur lesquelles on se construit, les empreintes. Alors là, évidemment, c'est là où on trouve le plus la question du trauma, des identifications, des mots d'ordre qui nous ont été transmis, du poids du transgénérationnel, etc., etc. Donc ça, à la limite, ça c'est indépendant du génétique. Ça dépend de l'environnement dans lequel on a été élevé. Le moi va être obligé de se créer en posant des frontières. Frontières vis-à-vis des pulsions, qui doivent être contenues sans être totalement débordantes, mais qui en même temps doivent être suffisamment accueillies pour que je me sente vivant. Frontières vis-à-vis de mon désir d'appétence à la fusion, C'est-à-dire que je dois garder cette joie de pouvoir être fusionnel, mais en même temps, je dois pouvoir garder la capacité à me défusionner, sinon je me perds. Frontière entre les subpersonnalités dominantes et les subpersonnalités refusées. En fait, le moi initial va se construire en mettant des frontières. Tout le problème, c'est que ces frontières doivent être fonctionnelles, c'est-à-dire ni trop étanches, ni trop poreuses. Et il y a un problème délicat pour la constitution du moi, du premier moi qui est le nôtre, c'est la question du trop ou du trop peu. Si je suis avec une frontière trop imperméable vis-à-vis de mes pulsions, je serai sûr de ne pas brutalement passer à l'acte, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'aurai le sentiment d'une vie vide, j'aurai peu de vie, parce qu'il me manquera cette espèce de chaleur de base, quoi. Donc vous voyez, une frontière trop hermétique vis-à-vis de mes pulsions va donner quelque chose qui sera ou la dépression, parce que j'ai le sentiment d'avoir plus de vie, ou la névrose obsessionnelle, parce qu'il faut sans arrêt que je me méfie de ce qui risquerait de monter, et je suis obligé de mettre en place des tas de systèmes pour essayer de contrôler cette espèce de cheval fou qui est à l'intérieur de moi. Frontière concernant le désir de la fusion, pareil, si la frontière est trop rigide, je refuse de vivre la fusion. À ce moment-là, je suis dans la solitude, je suis dans le froid, dans la faible capacité à sentir l'autre, dans le déficit et dans le sentiment d'un monde finalement pas très intéressant. Et inversement, si je suis trop facilement débordé par mon désir de fusion, je vais le chercher à tout prix partout, je vais être extrêmement dépendant de l'autre avec qui je suis en amour, ou bien je vais être extrêmement dépendant de drogues ou d'addictions diverses de toutes sortes, parce que là au moins je suis fusionné à quelque chose d'autre, et je me perds moi-même. Donc il y a là encore la difficulté pour la frontière entre trop ou pas assez.
L'addiction, c'est lié à l'attachement.
À l'addiction, c'est lié à l'attachement. Oui. L'addiction, c'est quand tu es addict à quelque chose, c'est comme si tu voulais devenir fusionnel avec tout, casser les frontières. Donc, si c'est une addiction à la drogue ou à l'alcool, c'est par exemple une addiction à un système qui fait péter les frontières et qui te donne le sentiment d'être enfin fusionné avec l'univers. Si c'est l'addiction au jeu, si c'est l'addiction à quelqu'un d'autre, l'addiction au sexe, dans tous les cas, c'est le désir d'être dans un truc fusionnel où il n'y a plus de barrières, où on peut tout, où on n'a pas de limites. Et en même temps, du coup, on cherche à l'extérieur quelque chose qui va nous faire disparaître nos limites et on s'y perd, quoi. On s'y perd.
Est-ce que ça a à voir avec la toute-puissance?
Ça a à voir avec la toute-puissance aussi, bien sûr, oui. Puisque finalement, la toute-puissance, c'est d'une certaine manière la négation de la différence. C'est la négation de l'autre, c'est moi je suis le centre du monde et il n'y a que moi au monde quelque part. Et cette tentation-là existe chez nous tous, mais en même temps, le prix à payer, c'est que si je suis le centre du monde, je suis en même temps seul au monde. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre quelque part. Donc c'est merveilleux et en même temps c'est l'enfer. Les addictions, c'est le paradis et l'enfer en même temps, quoi. Frontière en ce qui concerne les subpersonnalités, si elles sont trop rigides, je suis dans un espèce de système interne dictatorial où je ne veux voir qu'un aspect de moi-même et certainement pas l'autre, ce qui me donne peu d'adaptabilité, ce qui me donne une certaine intolérance parce que j'ai tendance à voir chez l'autre ce que je ne veux pas voir en moi et à le combattre chez l'autre. Ce qui me donne une espèce de rigidité caractérielle. Alors je suis tranquille, je suis en sécurité, il n'y a pas 36 000 moi, moi j'ai qu'un seul aspect, mais en même temps du coup je suis cerné par l'aspect refusé qui me revient de l'extérieur et contre lequel je lutte. Bon, exemple type, les gens homophobes qui sont véritablement en train de faire de la chasse aux PD par exemple, ben, c'est souvent des gens qui ont une très grande rigidité interne par rapport à leur propre bisexualité, et qui du coup ne veulent pas entendre parler d'une complexité concernant la sexualité. Donc, voulant être totalement hétérosexuel, totalement mecs ou je ne sais quoi, eh bien du coup, ils sont mal à l'aise et intolérants vis-à-vis de gens qui sont exactement à l'opposé de leur propre style. Et ça, c'est valable pour tout. Dès que tu es trop crispé, trop rigide sur un seul aspect, l'aspect refusé te revient de l'extérieur, ou tu le vois à l'extérieur et tu luttes contre l'extérieur, et ça te donne quelque chose d'extrêmement rigide. Ça, c'est une frontière trop rigide interne. Et une frontière trop faible, ce serait de sans arrêt basculer entre une tendance majoritaire et une tendance minoritaire qui serait presque à égalité. Puisque les subpersonnalités alterneraient dans la prise de pouvoir, et donc ça donnerait des angoisses, l'incertitude, la difficulté à faire des choix, la difficulté à agir, la difficulté à savoir ce qu'on veut, à savoir ce qu'on est, puisqu'on serait sans arrêt tout et son contraire. Donc du coup, là encore, la question de la juste frontière est un point très important. Alors ce qu'on voit dans mon schéma, c'est que finalement, la gestion des pulsions, la gestion du désir de fusion, la gestion de la polarité amène des peurs et des angoisses qui sont universelles, parce que ça découle de notre structuration. Par exemple, peur de devenir fou, peur de perdre les pédales, peur de craquer brusquement, peur de passer à l'acte, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde à minima. Puisque finalement, il y a l'idée, est-ce que je ne vais pas être brusquement renversé par ma vie pulsionnelle interne ? Et si je n'ai absolument pas ces peurs, c'est que j'ai établi un système tellement rigide que du coup, je le paye en absence de vie, par exemple. Nostalgie, sentiment du manque, recherche de la complétude et insatisfaction, au fond, ça fait partie de notre propre existence, puisque je ne peux pas être dans la fusion permanente, sinon je deviens fou. Et en même temps, j'ai la nostalgie du paradis perdu de la fusion. Donc il y a quelque chose qui est constitutionnel dans cette espèce de sentiment du manque et de la nostalgie et du paradis perdu. Puisque finalement, il a fallu que je sorte de la fusion pour me structurer. Mais en même temps, j'en ai la nostalgie. Autrement dit, chaque fois que les gens vont vivre des trucs comme ça, ils vont trouver que c'est anormal alors que c'est normal. Ça rejoint le renne, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui pour beaucoup de gens sont « Oh là là, je ne devrais pas être comme ça, ça ne devrait pas être comme ça », alors que c'est normal, quelque part. De même, le fait d'être bâti sur des polarités et sur des contradictions, sur des choses qui sont en lutte, en contradiction, qui sont du noir et du blanc en même temps, donne l'impression de ne pas être très stable. Et c'est juste, on n'est pas très stable. Tantôt ça tire à U, tantôt ça tire à Dia. Donne des fantasmes secrets et honteux, souvent. Par exemple, quand c'est les fantasmes qui sont liés à la partie interdite et que pourtant on laisse venir sous une forme de scénario imaginaire, ça donne un fantasme qui est lié à l'expression de la partie interdite, qui n'a pas le droit de citer, et qui pourtant se manifeste de cette façon, et aux yeux de la partie majoritaire, c'est vraiment honteux, il ne faudrait pas avoir ça. Donc, quelquefois, en fait, ce qui apparaît comme un terrible fantasme extrêmement honteux et inavouable, c'est extrêmement commun, et il y en a plein qui ont ce genre de fantasme, par exemple. Tous les fantasmes autour du viol, de violer, d'être violé, ou par exemple, mettons, sont des fantasmes en rapport avec la gestion à l'intérieur de soi, de la passivité réceptive, de l'activité. Mais plus c'est refusé, plus ça se manifeste sous une forme fantasmatique, violente, bizarre. Donc en fait, la peur d'être anormal et d'avoir tout ce monde bizarre à l'intérieur de nous-mêmes, finalement, c'est une peur extrêmement commune. Et logique, parce qu'on est compliqué. Donc on pourrait dire que finalement, ce moi qui s'établit sur cette base mouvante, avec les pulsions qui bougent, avec l'attachement qui alterne entre le désir de fusion et le désir de diffusion, avec les polarités, etc., le moi ne va pas être tranquille. On ne va pas pouvoir s'établir d'une façon tranquille. Il y a quelque chose qui est sans arrêt bousculé à l'intérieur, et il faut sans arrêt refaire les frontières, les refaire correctement, etc. Toute la difficulté, c'est de faire une frontière pertinente, qui soit ni trop poreuse, ni trop imperméable. Alors, par ailleurs, donc sur le côté droit, vous avez le quatrième point qui est les empreintes. Ça, c'est par contre plus pathologique. Ça, c'est par contre plus des douleurs dont on peut se priver, qui n'existent pas constitutionnellement, qui sont liées à l'histoire. Le trauma qui va se répéter, l'identification, par exemple, à l'agresseur qui va faire qu'il y a une partie de moi qui se comporte et qui ressent exactement comme l'agresseur se comportait et ressentait. Les mots d'ordre, soit fort, soit parfait, fais effort, dépêche-toi, fais plaisir, etc., sont aussi des espèces de contraintes internes liées à l'histoire. Et tout ce qui est finalement répétitif, contraignant, comme une espèce de compulsion à l'intérieur de nous-mêmes, est pour beaucoup lié au fait qu'on a construit notre moi initial à partir de l'autre. À partir des rapports avec l'autre, à partir de l'autre intériorisé, à partir des identifications à l'autre, etc. Autrement dit, le premier moi, notre personnalité de base, va devoir gérer comment contenir correctement les pulsions, comment trouver la juste distance avec l'autre, comment établir son propre style de personnalité avec des subpersonnalités dominantes, et comment faire avec ce qui apparaît comme une sorte de destin, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher de retomber toujours dans les mêmes ornières qui sont toutes liées à l'histoire. Chacun de ces aspects va devoir évoluer parce que si ça évolue pas, je vais être finalement presque totalement possédé par l'autre en moi, quoi. D'une certaine manière, je ne suis pas moi-même. Jusqu'à un certain âge, on pourrait dire que la personnalité, finalement, c'est pas la nôtre, quoi. C'est celle de l'autre, c'est celle de notre histoire, de notre environnement, de ce qui nous a été transmis, des générations précédentes, etc., etc. Il y a, jusqu'à un certain âge, ou plus exactement, jusqu'à une certaine crise, parce qu'on peut vivre sa vie durant décalé soi-même. Mais presque inévitablement, il y a quelque chose comme une sorte de crise. Il y a une sorte de crise parce que, en fait, à force de vivre sur des premières bases infantiles, qui sont truffés d'identification à l'autre, il y a quelque chose en soi qui étouffe, quoi. Et donc, d'une certaine manière, il est souhaitable, nécessaire et inévitable qu'il y ait une crise maturative à un moment donné. Et cette crise maturative va réorganiser tous les aspects de gestion des frontières qui avaient été auparavant traités par le psychisme infantile tant bien que mal, mais qui peuvent être désormais traités autrement à la lumière de la réorganisation que suscite la crise et du moi adulte. Alors, après cette crise, qui se caractérise d'abord, comme vous le savez, par la période où on est complètement flou, quoi, où on ne sait plus où on en est, où plus rien n'est sûr, où on est dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la peur, etc. Cette fameuse période de tempête dont on parlait précédemment, il est souhaitable qu'on la traverse, cette tempête, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à l'étouffer, parce que c'est ce qui va nous permettre de déboucher de l'autre côté. Si on veut à tout prix l'empêcher, cette crise et cette tempête, il y a des chances pour qu'on retombe sur la marche précédente, et finalement qu'on ne se trouve pas, qu'on ne saisisse pas l'occasion de cette crise majeure pour se réorganiser, pour se trouver soi-même. Donc, heureusement qu'il y a cette grande crise, et vous aurez assez souvent l'occasion d'avoir affaire à des gens qui sont dans cette grande crise. Eh ben, tant mieux. Alors c'est là où on est tellement en écart, nous, thérapeutes, que ce soit thérapeute en thérapie brève ou thérapeute en thérapie profonde, c'est là où on est tellement en écart par rapport à l'environnement social. Dans notre environnement social actuel, tout est fait pour faire disparaître la crise le plus vite possible, et en particulier en faisant disparaître les symptômes. Donc, immédiatement, il y a une action pour faire disparaître les symptômes et disparaître la crise, sans comprendre que du coup, ça empêche, ça tue dans l'œuf la maturation qui va déboucher de cette crise. Donc, vous allez voir, on va y revenir ensemble, qu'un des éléments importants d'une constitution saine, c'est de pouvoir reconnaître que la souffrance, ça fait partie de la vie, et de pouvoir supporter une certaine dose de souffrance et de frustration, sans se précipiter vers la disparition de cette souffrance et de cette frustration. Si je ne me précipite pas, que j'accepte de rester dans la crise, malgré la peur, malgré les angoisses, malgré les manifestations somatiques, malgré tout ce que je veux, etc., eh bien, à un moment donné, ça va donner quelque chose de créatif en moi, qui est la stimulation de l'axe central, qu'on peut appeler le soi en termes jungiens. Ça va donner une stimulation de cette source créative en moi qui va me faire déboucher sur autre chose. Et en particulier, cette autre chose, eh bien, ça va être l'acceptation de la complexité, c'est-à-dire que désormais je vais être beaucoup moins avec la nécessité d'être uniment d'un côté, je vais me reconnaître complexe, je vais reconnaître qu'il existe en moi l'amour et la haine. Bon, eh bien ça existe, il y a les deux qui coexistent, l'amour et la haine. L'amour intense pour mon fils handicapé et la haine intense pour ce fils handicapé. Je vais reconnaître que les deux ont le droit d'exister et que les deux sont présents. De même, je vais reconnaître que tout ne dépend pas que de mon mental, que j'ai besoin de faire confiance à la source créative en moi et de pouvoir accepter d'attendre que ce qui a besoin de se dire et d'émerger va être présent. C'est-à-dire que je vais faire plus attention à des messages non digitaux, qui sont les messages analogiques envoyés par les images, les vagues impressions, les vagues intuitions. Et moins attention à un raisonnement logique et digital qui est typique du mental et qui, lui, en fait, n'est qu'une petite partie des choses. Et en fait, je vais découvrir que le mental, avec ses capacités logiques et organisationnelles, c'est intéressant seulement à une condition, à condition d'être mis au service de ce que le soi cherche à dire. Donc du coup, je vais carrément mettre autrement les choses, au lieu de me faire avancer par le mental, il faut, voilà ce que je vais faire, etc. Je vais être beaucoup plus capable d'être attentif à ce qui se dit en moi et d'essayer de le formaliser avec mon mental pour pouvoir le prendre en charge, par exemple. Je vais apprendre à avoir une gestion souple de l'ouverture et de la fermeture des frontières. C'est-à-dire, ça va pas être ou poreux ou imperméable, mais à certains moments donnés, je mets la porosité, à certains moments donnés, je mets l'imperméabilité. Et du coup, à partir du moment où je suis là-dedans, dans cette gestion souple de ma complexité, où j'accepte d'être complexe, ça veut dire que la majorité de moi, elle a forcément une minorité alternative et que les deux ont le droit d'existence. À partir de ce moment-là, je vais rentrer dans un autre monde qui est un monde de complexité, où rien n'est tout noir ou tout blanc, et où du coup je peux être beaucoup plus tolérant envers moi-même et envers les autres aussi. Hein ? Alors cette confiance dans la source créative en moi et dans la capacité à mettre l'énergie du moi à son service va me donner une sécurité malgré la complexité. C'est-à-dire je suis dans la complexité, mais j'ai un aspect de moi auquel je peux faire confiance, qui va dire ce qui est bon. Il y a une espèce d'axe auquel je fais confiance, qui est mon propre soi créatif. Et à partir du moment où je suis là-dedans, ce qui rejoint d'ailleurs un peu l'histoire du paysan chinois dont je vous parlais tout à l'heure, je suis confiant, c'est-à-dire je suis tranquille, je vais voir ce que la vie, et en l'occurrence ce que mon soi, veulent dire et vers quoi ils m'emmènent. À ce moment-là, je suis complexe mais en sécurité, et cette sécurité donne ce qu'on appelle le locus of control interne, c'est-à-dire je sais qu'au fond, les choses vont se goupiller à l'intérieur de moi, que je ne suis pas dépendant des aléas de l'extérieur, mais que j'ai une espèce de stabilité interne, quoi qu'il arrive. On y reviendra sur locus of control interne ou externe.
Moi, j'ai peur de, quand tu dis ça, ce qui me vient, c'est, et si je ne me méfie pas, est-ce que je ne vais pas être trop complaisante avec moi-même ?
Non, parce que à cette étape-là, tu vas faire avec la complexité, ça ne veut pas dire donner le pouvoir à un seul aspect. Il y a un aspect qui viendra, puis il y en a un autre, et ben je donnerai tantôt à l'un, tantôt à l'autre. C'est plutôt tantôt, tantôt.
Tu vas alterner.
En fait. Oui, tu alterneras.
Tu vas prendre les deux quand même.
Tu prends les deux. Tu alterneras entre la fusion amoureuse, intense, et puis la défusion, où tu t'autorises à être complètement toi-même indépendant. T'alterneras entre l'intensité d'investissement dans telle chose, dans la formation, et des moments où tu glandes intensivement, où tu ne penses plus à rien. Voilà, ça sera plutôt une sorte d'alternance entre les différents aspects de toi.
Donc il y a quand même une vigilance à avoir.
Non, parce que la complaisance, ce serait de donner tout le pouvoir à un seul des deux aspects. Alors que la complexité, c'est de dire, je donne un temps à chaque aspect à l'intérieur de moi. Et tout est respectable à l'intérieur de moi. Ce qui ne veut pas dire que je vais tout passer à l'acte. Si j'ai des fantasmes...
Là, je suis un bon parent, alors.
Voilà, je suis un bon parent pour moi-même. Un bon parent qui est capable de dire ok ou pas ok. C'est du choix conscient, quoi. C'est plus une espèce de barrière automatique vis-à-vis de certains aspects qu'il faut surtout pas qu'ils émergent, etc.
Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que plutôt que d'être blanc ou noir, on peut être plus clair?
Alors, pas vraiment, non, pas vraiment.
Ah, c'est toujours...
Ben, parce qu'il y a du blanc et du noir à l'intérieur de nous, vu les polarités, si tu veux. On est bâti avec des polarités. Donc en fait, le gris, c'est une tentative de compromis entre le blanc et le noir, qui à mon avis n'est moins efficace et moins intéressante que donner carrément sa part au blanc pendant un temps, donner carrément sa part au noir.
C'est pas par le gris clair. C'est pas intéressant.
Pas forcément. Mais bon, peut-être ça peut être intéressant dans certains cas. Hein. Par exemple, dans la relation, quelquefois tu es obligé de faire des compromis entre le blanc et le noir. Mais c'est quand même moins intéressant que de s'autoriser ensemble à être tantôt dans un truc, tantôt dans l'autre, quoi. Tu vois ? Tantôt proche, tantôt loin. Tantôt en train de s'engueuler, tantôt en train de s'aimer. Mais c'est pas forcé que tu passes par le gris pour voir qu'il y a et blanc et noir, quoi. Hein ? Et effectivement, la meilleure image, c'est celle du yin et du yang, avec le noir et le blanc, et le rond blanc qui est dans le noir, le rond noir qui est dans le blanc. Même comme ça, ça se mélange pas quelque part. Mais pareil pour la féminité, la masculinité. T'as à la fois du masculin en tant que femme, à l'intérieur de toi, à la fois du féminin en tant qu'homme, et il est bon de faire la place à chacun des deux aspects. Ce qui veut pas dire faire la place égalitaire, mais la juste place, quoi. Hein? Alors du coup, ben, si on suit cette idée-là, beaucoup des interventions du thérapeute vont porter sur cette question des frontières. Sur la gestion des frontières, sur les peurs issues d'une mauvaise gestion des frontières, sur le fait que le moi est en train de paniquer pour pas grand-chose, quoi, finalement, qui pourrait prendre les choses autrement. D'où l'intérêt de l'intervention REN, recadrage explicatif normalisant, qui finalement met dans une autre lecture et qui très souvent débouche sur le fait qu'après tout, c'est normal, quoi, de vivre ça. D'où l'intérêt aussi du travail où on va travailler sur la partie qui est à l'origine du symptôme et qui en fait a un aspect positif. Puisque finalement, si elle est obligée de passer par le symptôme, c'est qu'elle n'est pas assez entendue. Si on accepte de l'entendre et de voir ce qu'elle recherche, à ce moment-là, on va intégrer ce qu'elle amène et au lieu de lutter contre, on va donner de la place à cet aspect positif de la partie contradictoire avec la majorité. D'où le travail de sortir des positions rigidifiées ou extrêmes, qu'on appelle en psychanalyse passer du clivage à l'ambivalence, et l'acceptation de la complexité. Ce qui va donner aux gens un autre monde, quoi, un monde où ils ont plus de capacités, puisqu'ils peuvent appuyer sur une touche ou sur l'autre. Et il est important, par exemple, qu'ils découvrent à la fois leur capacité à agir, pour changer les choses quand c'est possible, mais à la fois aussi leur capacité à lâcher prise, pour pas changer les choses quand c'est pas possible, quoi. On est là aussi, savoir agir ou ne pas agir, suivant la situation. C'est pas un truc catégorique, c'est pas j'agis dans tous les cas. Il y a des cas où la meilleure façon de faire, c'est d'accepter, c'est de lâcher prise. Par exemple, accepter que la réalité interne en moi est inquiétante et déstabilisante. Bah oui, c'est comme ça. On n'est pas bâti d'une façon simple, on est bâti avec quelque chose de mouvant. Accepter que un jour je suis en pleine forme et puis brusquement, je sais pas pourquoi, oh là, je perds le moral, j'ai une espèce de coup de déprime, de coup de blues. Ben, finalement, même si je sais pas pourquoi, le simple fait d'accepter de lâcher prise et de me dire « après tout je suis bâti complexe et contradictoire ben, », souvent ça permet de dépasser cette étape-là. Parce que on l'accepte comme étant le fait que la vie intérieure, c'est comme la météo extérieure, quoi. Il y a des jours avec la pluie, des jours avec la neige, des jours avec du soleil. Des fois, il y a du soleil en même temps que la neige, et ainsi de suite.
Et là, les polarités dont tu nous parles par rapport aux gens bipolaires, ça...
Alors, c'est autre chose, si tu veux. C'est une bonne question. Actuellement, la grande mode, c'est de mettre le terme bipolaire sur tout le monde. Alors, du coup, ça arrange les labos, parce que bipolaire égale médicaments, etc. C'est, à mon avis, une erreur. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, un pourcentage très faible, quelques pourcents de la population qui ont une maladie psychotique bipolaire, qui passe par des phases maniaques quasi délirantes et par des déprimes intenses dans lesquelles ils vont se suicider immédiatement. Bon, il y a un tout petit pourcentage de la population psychotique qui ont besoin de traitements neuroleptiques et de lithium aussi pour pouvoir être stabilisés. Mais tout le monde est bipolaire, en sens que il y a des jours où tu as la forme et des jours où tu n'as pas la forme. Il y a des jours où tu as la frite et des jours où tu n'as pas la frite. Et même dans la même journée, tu peux passer d'un truc à un autre. Et c'est normal, compte tenu du fait qu'on est bâti autour de la polarité, on est bâti comme ça, quoi. Et mettre une étiquette pathologique là-dessus, finalement, c'est risquer d'aggraver encore la question, au lieu de se dire, après tout, oui, ben ouais, je suis complexe, quoi.
Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont bipolaires, quand ils viennent te voir, ils te disent, la première des choses, je suis bipolaire.
Oui.
C'est vraiment là une...
Oui, oui. Ben, la plupart du temps, quand quelqu'un vient te dire, je suis bipolaire, le problème, c'est qu'il s'inscrit dans cette étiquette parce qu'il y a des tas de bénéfices, quoi. Tout le monde le voit comme bipolaire. C'est une pauvre chose malade qu'il faut soigner, etc. Alors que c'est, j'ai des éléments contradictoires en moi qui font que je suis ballotté entre un truc et un autre et que, ben, je ne sais pas comment gérer ça. Voilà. Bon. Ben voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va plutôt apprendre à gérer la supposée bipolarité que l'accepter comme une espèce d'étiquette pathologique. D'où l'intérêt des thérapies brèves telles que je vous les propose, c'est-à-dire il y a un certain nombre de cas où finalement ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus apprendre à faire avec la situation et à la gérer correctement que s'empêtrer dans une supposée étiquette pathologique qui va nous en serrer de plus en plus. Un peu comme quelqu'un qui est pris dans un filet et qui plus se débat, plus ça l'enserre, quoi. Alors qu'au contraire, s'il arrête de se débattre et qu'il coupe un ou deux maillons, ça suffit pour sortir. Voilà. Donc, beaucoup de nos interventions vont porter sur le moi et sur la gestion des frontières avec tous ces aspects. Alors toutefois, quand les empreintes sont trop fortes et que le moi est trop oblitéré pour devenir fonctionnel, alors à ce moment-là, là, on va devoir forcément aller plutôt sur une thérapie profonde. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de ressources dans le moi actuel, tellement il est biaisé par les traumas, par l'identification à l'agresseur, par des choses comme ça. Et à ce moment-là, on sent que c'est la limite de la thérapie brève et on envoie sur la thérapie profonde. Ceci dit, même en thérapie brève, on peut dénouer un certain nombre d'empreintes. Et en particulier, quand vous lirez le livre de Jung, Y-O-U-N-G, et non pas Jung, J-U-N-G, le psychanalyste. Jung, c'est un Américain. Sur la thérapie des schémas. Là, on est à mi-chemin, la thérapie des schémas. On est à mi-chemin entre la thérapie brève, vraiment brève, et la thérapie profonde, vraiment profonde. Quoi. On est entre les deux. Voilà. Bon, alors, si on continue sur cette idée, ben finalement, il y a un certain nombre de souffrances qui sont normales. Exemple. La réalité externe est frustrante. Ça, vous le savez déjà, on l'a déjà vu. La réalité externe, elle a une sale habitude de ne pas être conforme à ce qu'on attendrait. Et c'est pas ce que ça devrait être. Donc du coup, ben, la réalité externe est frustrante parce qu'elle ne correspond pas à nos désirs. Eh bien, face à ça, il faut savoir gérer la frustration et supporter une certaine dose de souffrance. Ça, on n'apprend plus presque maintenant. Ça, c'est comme si maintenant, avoir une certaine frustration et supporter une certaine dose de souffrance, c'était impensable. Or, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour faire face à la vie. Parce que de toute façon, on va devoir gérer la frustration, que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, et accepter la souffrance du fait qu'il y a un écart entre ce qu'on attend et ce qu'on trouve. Si on peut tenir le coup malgré tout, gérer la frustration, supporter la souffrance, on va pouvoir agir pour changer ce qu'on peut, et donc du coup, on aura beaucoup plus de chances d'aboutir à quelque chose que si on ne peut pas supporter la frustration ni une certaine dose de souffrance. Donc première douleur normale, la réalité externe est frustrante, et donc, comme il y a un écart entre ce qu'on attend et ce qui arrive, eh bien, il y a une souffrance. La souffrance est toujours un écart. C'est un écart entre ce qui est attendu et ce qui est trouvé. La réalité relationnelle est frustrante. Parce que quand on voudrait la fusion, eh ben, l'autre il n'est pas forcément d'accord pour la fusion à ce moment-là. Quand on fait la fusion et que l'autre est d'accord, que c'est merveilleux, au bout d'un moment, chacun des deux a impérativement besoin de se reprendre. Et donc, il y a une certaine chute, une certaine douleur du fait que finalement, cette fusion ne peut pas rester. Quand on est dans la défusion, on se sent seul et finalement, on est autonome et seul. Comme dirait Sartre, libre, ah, comme je suis libre, et quelle merveilleuse absence que mon âme. C'est-à-dire, en même temps, il y a une absence. Donc, on est obligé de gérer la fusion. Savoir supporter la fusion, c'est pas toujours facile. Il y a plein de gens qui savent pas supporter l'intimité, d'être carrément fusionnel, parce qu'ils ont peur de se perdre. Et savoir supporter la défusion, c'est-à-dire être capable de poser des limites, de se retrouver soi-même, de se différencier de l'autre, etc. Il y a plein de gens qui ne savent pas le faire. Souvent, c'est ou l'un ou l'autre. Et accepter leur alternance et l'impermanence dans le lien, le fait que c'est jamais tout le temps fusionnel ou tout le temps défusionnel. Sur les deux premiers points, la réalité externe est frustrante et la réalité relationnelle est frustrante. Dans ces deux cas, il faut être capable d'agir. Les deux premiers points, c'est des points sur lesquels on peut essayer d'agir. Par contre, les deux points suivants, c'est plutôt des points sur lesquels il faut être capable de lâcher prise pour accepter ça. Donc le troisième point, c'est la réalité interne est déstabilisante et donc inquiétante pour le moi. Parce qu'il y a les pulsions qui nous bousculent, il y a les opposés qui se bagarrent, et en fait, il faut savoir accepter tous nos vécus. Donc par exemple, quand vous faites un travail avec un patient pour clarifier son vécu, ben, déjà, vous l'incitez, vous l'aidez à aller vers quelque chose qui est l'acceptation de sa complexité. Il faut accepter tous les vécus. Plus tu luttes contre, plus ça prend de l'importance pour toi. Et inversement, si tu ne luttes pas contre, ça traverse. Moi, je ne m'en rends même pas compte, tu vois. Donc il y a une certaine façon de ne pas lutter quand on ne peut pas changer les choses, qui est finalement assez apaisante. Donc savoir accepter tous nos vécus, les contenir, les détoxiquer en leur donnant un sens et une réalisation. Autrement dit, même des choses qui sont vraiment bizarres à l'intérieur de nous, ben, on peut les accepter, se dire qu'elles ont un sens. Par exemple, le fantasme le plus bizarroïde, ben, il a un sens. Il est la reproduction de telle et telle situation traumatique sous une forme symbolique. Et au lieu de le revoir avec horreur, ben, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Et en le menant vers le sens, je le détoxique. Et j'accepte que tout ce qui est en moi a sa raison d'être. Sauf que sa raison d'être n'est pas forcément évidente directement. Il va falloir que je la décortique pour en comprendre le sens. Mais le premier pas, c'est de dire, voilà, c'est en moi. Bon, ben, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal. Aussi bizarre que ça soit. J'ai envie de me suicider. Bon, ben ouais, d'accord, j'ai envie de me suicider. J'ai envie de tuer l'autre. Ben ouais, j'ai envie de tuer l'autre, hein, d'accord. Et alors, ouais, bon, ça ne veut pas dire que je vais le passer à l'acte. Ça veut dire que je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire, quoi. Et souvent, ce que ça veut dire, ça se dit sous une forme tellement violente ou puissante que c'est trop interdit. Si, par exemple, je suis très peu agressif, avec très peu d'expression de mon propre refus, il est assez fréquent que je vais avoir des fantasmes très violents. C'est-à-dire, je vais me dire, si jamais je laissais aller mon agressivité, alors je tuerais tout le monde à coups de mitraillette. Ou à coups de couteau, c'est encore mieux. Ou alors je vais le retrouver vu de l'extérieur. C'est les autres qui sont tous tellement agressifs. C'est-à-dire, il y a quelque chose là que je n'accepte pas et qui me revient ou sous la forme de fantasmes excessifs ou sous la forme d'une vision du monde qui, en fait, est porteuse de ce que je refuse.
Quand tu prends l'éthanatos et l'agressivité, pourquoi ce rapport entre agressivité et
la mort? Il n'y a pas de rapport. C'est deux trucs différents. C'est deux théories des pulsions différentes chez Freud. Il y a la première théorie des pulsions qui est le sexe et l'agressivité. Et puis il y a une deuxième théorie des pulsions qu'il a fait sur la fin de sa vie, qui est pulsion de vie, pulsion de mort. Actuellement, on est plutôt avec l'idée que l'agressivité, ça peut être une couleur, une tonalité nécessaire pour l'expression du reste de la pulsion. Qu'il faut une certaine agressivité pour aller oser vivre sa sexualité, par exemple, mettons. Et que c'est pas tout à fait pareil que Eros et Thanatos. Donc alors, on en est dans la réalité interne est déstabilisante et donc inquiétante pour le moi. Là, sur le point 3 et sur le point 4, c'est être capable de lâcher prise pour accepter ça. Le point 4, c'est la contradiction et l'alternance entre les contraires fait partie de notre structure. Un jour, je suis comme ça, un jour, je suis le contraire. Eh ben oui, c'est comme ça. Et donc, j'intègre la complexité en contenant les opposés. Alors, contenir les opposés, ça ne veut pas dire de passer à l'acte, ça veut dire les contenir. Ça veut dire, je vois en moi des choses qui sont complètement contradictoires, ça fait bizarre, quoi, et je les garde. Et si je les garde à l'intérieur de moi, il y a ce que Jung, le psychanalyste, parle de... Il y a une espèce de tension, comme ça, entre des polarités opposées, qui va mettre en mouvement la créativité. C'est-à-dire, si je conserve, sans savoir quelle va être la solution, les deux tendances carrément opposées qui sont en moi, au bout d'un moment, il va y avoir l'émergence d'une solution qui va m'apparaître claire. Le problème sera peut-être pas résolu, mais il sera posé autrement, il sera différent. Et à ce moment-là, du coup, il sera dépassé. Ça rejoint la question de la position méta ou du niveau 2 en théorie systémique. Autrement dit, la meilleure manière de faire avec les opposés en nous, c'est de les garder, de dire je veux ça et je veux son contraire, et je veux les deux, il n'y en a aucun des deux qui veut lâcher, et de garder sans sacrifier un des deux opposés, cette espèce de pression interne qui va finir par nous faire déboucher sur une solution, qu'on appelle le soi en termes jungiens. Donc, éviter de se rigidifier sur un seul pôle, quoi.
Il faut que les deux pôles soient à égalité, donc bien intégrés.
Alors, dans ces cas-là, ils sont à égalité, c'est là où ça fait la pression maximum. S'ils ne sont pas à égalité, il y a « je veux ça, c'est bien clair », il y a quand même une petite partie de moi qui veut le contraire. Et je tiens compte des deux. Mais là où la pression est maxi, c'est quand je veux à 50-50. En général, d'ailleurs, c'est angoissant. C'est là où je suis angoissé, et c'est là où j'ai des manifestations somatiques aussi, parce que ça vibre dans tous les sens, quoi. Hein? Mais en même temps, c'est bien de rester avec ça. Parce que du coup, à un moment donné, ça va brusquement se déboucher sur... Ah mais oui, voilà.
De toute façon, on a envie de se débarrasser d'un côté ou de l'autre.
Oui, ben oui.
Ce qui fait que ça crée...
Et ça crée la tension. Et que ça va se clarifier à un moment donné. Et qu'il ne faut pas trop se précipiter sur une action rapide, quoi.
Mais qui prend ce qu'il y a à prendre.
Oui, il reste disponible pour l'émergence de la solution par une autre partie de lui que le mental, qui d'ailleurs va être en synchronicité avec la vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la vie qui va venir lui donner une réponse, mais qui en fait correspond à la recherche de la solution par le soi. Parce que dans la perspective jungienne, le soi est en même temps en rapport avec l'inconscient collectif. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qui est le plus personnel est en même temps ce qui est relié aux forces collectives. Et donc, dans la perspective jungienne, quand tu es dans la tension, dans l'incertitude, qu'est-ce qui va bien pouvoir émerger, et que tu ne te précipites pas sur une action ou sur le choix entre les deux polarités, à un moment donné, il y a une pression interne qui va avoir un rapport avec l'extérieur et qui va déboucher sur... Voilà quelle est la solution. Et la solution, elle peut apparaître comme venant de l'extérieur, alors qu'en réalité, tu sens qu'à ce moment-là, c'est le truc juste. C'est ça qui, d'un seul coup, te fait déboucher. Hein? Ça, c'est les douleurs normales. Finalement, ça n'empêche pas que c'est complexe et qu'il faut le gérer, mais finalement, c'est normal, quoi. Et puis, il y a les douleurs anormales qui, elles, sont liées beaucoup à l'environnement et à l'infantile. Donc l'envahissement par une vision infantile et par des émotions infantiles, là on n'a pas le choix, il faut faire la différence entre l'adulte et l'enfant en soi et garder une démocratie intérieure pertinente, c'est-à-dire il y a une majorité qui dirige et qui n'est pas bousculée par le moindre cri venu de la minorité. Être possédé par l'autre en soi, ça c'est quelque chose qui est déjà plus complexe en ce qui concerne le travail qui peut difficilement se faire en thérapie brève. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un certain nombre de comportements qui sont l'identification à l'agresseur. Ce que j'ai subi, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. La manière dont l'agresseur se comportait, voyait le monde, ressentait les choses, à certains moments donnés, je les ressens et je les vis de la même manière. Autrement dit, par exemple, bon, l'exemple classique, j'ai été un enfant battu. En tant que parent, à certains moments donnés, je vais être excité avec l'idée de battre mon enfant, il y en a marre de ce petit con qui comprend rien, etc. Et finalement, tout ce que je vais vivre là, c'est exactement le psychisme de l'agresseur qui est à l'intérieur de moi et que je crois être moi, puisque tout ce qui est à l'intérieur de moi parle au nom de je. Donc du coup, là, il y a quelque chose qui est complètement paumé, c'est-à-dire que je suis dirigé par l'autre en moi alors que je crois être moi-même.
C'est ce qui explique la reproduction de traumatisme.
Bien sûr, c'est ce qui explique aussi que, par exemple, si tu as été abusée en tant que petite fille, tu as des chances d'être une mère qui se débrouille pour que ses enfants soient abusés, en toute inconscience, quoi. Mais donc ça nous porte sur le troisième point qui est être obligé de revivre le trauma tant qu'il n'a pas trouvé sa terminaison. Et sa terminaison, il peut la trouver que sur un mode symbolique, c'est-à-dire en revivant et en terminant autrement. Et être rigidifié dans des mécanismes de défense, bon, savoir les repérer et de s'en désidentifier, c'est déjà un travail plus analytique.
Et puis le sacrifice pour restaurer.
Eh bien, c'est avoir une espèce de dette dans laquelle tu vas sacrifier ta vie entière pour restaurer le parent, en toute inconscience. C'est-à-dire, tu vas finalement t'offrir en pâture pour pouvoir restaurer imaginairement le parent que tu as vu abîmé quand tu étais enfant et que tu crois, dont tu crois plus ou moins consciemment que tu en es responsable et que tu en es coupable. Et donc c'est un poids de la dette inconsciente qui peut être extrêmement lourd dans le destin de la personne. Donc j'ai terminé par quelques repères, c'est-à-dire que finalement, très souvent, une des façons de faire avec sa souffrance, c'est de la regarder en face plutôt que de la fuir. Plus les gens fuient leur souffrance, plus ils sont poursuivis par elle. Donc là, on est en plein cœur d'un paradoxe assez délicat en tant que thérapeute, c'est que les gens ils viennent pour sortir de leur souffrance, mais quelquefois, pour en sortir, il va falloir qu'ils la regardent en face. Et c'est l'importance du lien et de l'alliance de travail que vous allez avoir, parce que vous allez du coup pouvoir permettre, grâce à ce nouveau système à deux, qu'on fasse autrement avec la souffrance, qu'on la regarde en face pour essayer de trouver une autre façon de la gérer. Hein. Accepter de réhabiliter le négatif, le noir, le projeter, le sens du symptôme. Donc ça veut dire de réhabiliter l'autre aspect de moi, de réhabiliter ce que je vois chez l'autre et que je déteste, de réhabiliter la valeur de mon symptôme, etc. Ben, ça apaise les choses une fois qu'on en a trouvé le sens. Faire confiance à la source créative non digitale, c'est-à-dire sous forme d'images, d'impressions, de sensations, d'intuitions, et rester avec son conflit interne jusqu'à ce que cette source créative ait trouvé ce qu'il faut. Toutes choses qui sont à l'opposé des mécanismes habituels des gens, qui veulent en sortir le plus vite possible. Donc on va aider à ce que le conflit soit respecté comme source de possibilités nouvelles. Et ça, ça fait partie du recadrage. Un des recadrages, c'est dire, chouette, vous êtes dans un conflit ou dans une crise, vous allez pouvoir déboucher sur autre chose de plus satisfaisant. Et à partir du moment où tu as ce recadrage, tu peux plus facilement aider la personne à rester avec son conflit jusqu'à ce qu'elle en trouve une autre solution. Retrouver les possibilités d'amour extrême de l'enfant, c'est-à-dire que tout enfant de 2-3 ans est capable d'un amour extrême pour ses parents, au point de se sacrifier, au point de tomber malade, au point de faire tout ce qu'il faut pour que les parents soient restaurés si c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il existe, de mon point de vue, en nous tous, une capacité d'amour totale dans laquelle on est même prêt à se laisser totalement au service de l'autre. Bien entendu qui est extrême et qui est trop, mais n'empêche qui est aussi bonne, c'est-à-dire être capable de retrouver en soi cet amour total, à la limite où tu te sacrifies toi-même pour que l'autre soit heureux, est quelque chose qui n'est pas négligeable comme source de vie, d'amour intense, à condition que ça soit borné par la capacité aussi à être totalement individualiste, totalement centré sur soi. On est dans la complexité où je suis capable de me sacrifier totalement pour l'autre et en même temps capable aussi d'être totalement imperméable à l'autre. Ce qui va vous déboucher sur quelque chose que vous connaissez tous, c'est que vous pouvez être extrêmement sensible à quelqu'un, à la douleur du monde, à telle et telle chose, et en même temps extrêmement indifférent par moment, on s'en fout, de toute façon, on a autre chose à faire, etc., etc. Je terminerai par quelques éléments sur la douleur psychique, et ensuite on arrêtera là pour ce petit topo. En fait, la douleur morale psychique est aujourd'hui à un écart entre ce qui est attendu et ce qui est perçu comme étant la réalité. Donc il y a trois choses, il y a ce qui est attendu, ce qui est perçu, et ce qui est la réalité de la situation. Ce qui est attendu, c'est mon désir. Voilà ce que je voudrais. Ce qui est perçu, c'est mon décodage. Parce que la perception, c'est toujours un décodage. Et ce qui est la réalité, c'est la situation telle qu'elle est. Eh bien, pour diminuer la douleur, je peux jouer sur chacun de ces trois registres. Je peux ou changer mon désir. Bon, bah, puisque c'est comme ça, ça fait rien, je m'en fous, je m'adapte, etc. Et à ce moment-là, la douleur disparaît. Je peux ou changer la situation pour qu'elle soit plus conforme à mon désir, ou je peux changer mon décodage et ma perception de la situation. Dans un certain cas, quand tu fais disparaître ton désir, ça rejoint un peu la philosophie orientale, quoi. Renoncer au désir pour être heureux. Si je renonce au désir, tout me va. J'ai plus de douleur. En même temps, je suis plus moi-même, d'une certaine manière. L'autre option, c'est changer la réalité pour qu'elle soit conforme à mon désir. Ça, c'est plus occidental. C'est je vais tout faire pour que ça corresponde à ce que je veux. Et si j'y arrive, je suis apaisé. Et la troisième option, c'est la plus dangereuse et la plus facile en même temps. C'est celle de fausser notre perception du réel. C'est-à-dire, par exemple, si je fuis dans un monde imaginaire, je suis en plein souci. Je passe mon temps sur l'ordinateur en train de jouer à Second Life. À ce moment-là, je suis ni dans perdre mon désir, ni dans changer la situation. Je suis en train de partir dans une autre perception des choses. Et là, on retrouve tous les systèmes qui ont toujours eu lieu dans toutes les civilisations pour essayer de partir dans autre chose.
La fuite.
La fuite, mais la fuite dans un monde imaginaire. Dans la drogue, dans l'alcool, dans la boulimie, dans les addictions diverses, dans la télévision. C'est pas pour rien que la télévision a tellement d'importance en prison, par exemple, ou dans les hôpitaux psychiatriques. Tu pars dans un monde imaginaire. Dans les jeux vidéo, dans le cinéma. Autrement dit, à la limite, il peut même y avoir une attaque de la perception, par exemple, le déni complet, ou bien le délire, qui est une façon, finalement, de ne pas faire avec la situation. C'est intéressant de réfléchir à cette façon de gérer la douleur, quoi. Est-ce que je vais diminuer mon désir? Est-ce que je vais changer la réalité? Ou est-ce que je vais changer ma perception? Et finalement, là, on rejoint d'une façon plus générale toutes les positions religieuses, politiques, toutes les civilisations qui peuvent se lire à travers cette grille. C'est-à-dire, il y a une certaine tendance qui va dire renoncez à vous-même, acceptez de vous en remettre à nous et vous serez heureux. Quittez votre désir et vous serez heureux. Une autre option qui consiste à dire voici des nouveaux objets qui permettent une réalité plus proche de votre désir. Et d'ailleurs, votre désir est tourné vers ces objets, donc la pub et tout. Et puis, une autre façon de faire qui dit, voici toutes les distractions nécessaires qui vous permettront de penser à autre chose. Panem et circenses, du pain et des jeux, disaient les Romains. C'est-à-dire, finalement, s'ils avaient du pain et des jeux, ils pensaient plus à autre chose, quoi. C'est trois façons de gérer la douleur qui sont intéressantes parce qu'elles sont non seulement individuelles, mais sociales et même civilisationnelles. Donc je resterai sur cette belle envolée lyrique concernant la douleur, pour que nous y réfléchissions ensemble ultérieurement. Voilà.